Jules Tellier, au caveau du Panthéon. Donc la patrie reconnaissante aux grands hommes a élevé en leur honneur un monument d'un style contestable et les a enfermés dans ses caveaux. Ils y dorment, rangés au fond des cryptes froides. On les visite en s'éclairant d'une chandelle. Oh, l'ingénieuse idée d'enfouir le plus bas ceux qui ont le plus haut plané, et de dérober au jour ce qui devrait être exposé sans cesse aux yeux des hommes. Mais, puisqu'enfin on les a mis là, il est bon de les y aller voir de temps en temps, par piété, et pour distraire leur solitude. Et puis il y a parmi eux quelqu'un de très grand qu'on oublie un peu, et dont j'aime me souvenir. Pauvre Hugo! Des critiques s'attaquent à sa gloire, et l'on nous disait naguère que des rats s'attaquaient à ses couronnes et un peu, je crois, à son cercueil. À peine entré dans la grande salle, j'interroge un gardien. « Oh, c'était pas des rats, me dit-il, mais de bien petites souris. Elles avaient trouvé moyen d'entrer en se glissant sous la porte et elles s'étaient logées dans une des couronnes qui est toute en paille. Et quand la chose a été révélée par le Figaro, plus de 20 personnes, monsieur, sont venus proposer des trappes pour les détruire. Mais je m'en suis bien chargé tout seul, et il y a beau temps qu'il n'en vient plus. » Rassuré à demi, je questionne pourtant un autre gardien, vieux et décoré. Celui-là me répond sévèrement que c'est des bêtises, et qu'il n'a jamais eu de rat dans le Panthéon. Ils sont bien optimistes, ces gardiens. Ce qui est sûr, c'est que les couronnes sont toujours aux mêmes places, recouvrant presque, pourquoi, les noms dorés des combattants des Trois Glorieuses. Seulement, leurs voiles noires sont déchirées çà et là et remplacées par d'autres voiles qui n'ont pas été tissées de mains humaines. Il peut être content, le poète qui a écrit « J'aime l'araignée, j'aime l'ortie, parce qu'on les hait ». On respecte les bêtes qu'il aima. La sollicitude de l'administration va peut-être jusqu'à chasser les rongeurs, non jusqu'à troubler les arachnides. Nous descendons au caveau. La patrie reconnaissante y a mis deux ou trois grands hommes et beaucoup de petits autour. Connaissez-vous le vice-amiral comte de Winter et le général Ebenezer-Régnier? Entendez-vous parler du cardinal Erskine ou du capitaine Mareri, évêque de Sabine, ou du cardinal Caprara, archevêque de Milan, ou encore de Treillard, qui dirigea en son temps la section de législation du Conseil d'État? Eh bien, sinon, vous ferez ici leur connaissance. Il paraît que les grands hommes étaient 39 il y a 2 ans. Hugo, qui fait à présent le 40e, doit trouver que l'immortalité n'est guère mieux répartie chez les morts que chez les vivants, et que la société n'est pas moins mêlée dans les panthéons que dans les académies. Le cercueil de Hugo est, comme on sait, un cercueil triple, de sapin, de plomb et de chêne, recouvert de velours orné de clous d'argent. Nous nous massons devant la grille de bois qui ferme le petit caveau où il est déposé, et le gardien nous débite un discours en scandant ses mots avec un geste lyrique. Victor Hugo, poète français, sénateur, le cercueil que vous voyez fut exposé sous l'Arc de Triomphe. Depuis son transfèrement ici, il est resté le même. Il est d'une valeur unique au monde, mais bientôt vous ne le verrez plus. À cette place sera le tombeau de marbre du poète. Alors le cercueil ne sera plus visible. Il sera fermé intérieurement. Et au-dessus du tombeau sera la statue de Victor Hugo. Il le représentera les yeux au ciel, tenant à la main un livre de poésie. Et il dit poésie d'un ton mystérieux et saugrenu. Et à 3 pas de là, il nous range contre le mur, pose sa lanterne à terre et nous fait entendre l'écho. Il lui adresse la parole en termes familiers et l'écho les répète. puis il frappe d'une baguette sur une manière de tambour, et des roulements se répercutent d'un bout à l'autre de la voûte. Le public est plein de joie. Moi, je me souviens de cette hôtesse de Waterloo qui racontait à l'auteur des Misérables ses souvenirs sur la bataille. J'étais toute petite et j'imitais le bruit du canon en faisant boum boum. Lui aussi, le pauvre grand poète. Il a accompagné du tabac dans ses vers le fracas de tous les événements du siècle. Et voici qu'il est puni par où il a péché, et que le boum boum dont il abusa pendant sa vie le poursuit après sa mort. Je souris et je m'en blâme. On est si ingrat pour le maître et les rangs de ses fidèles se sont tant éclaircis. Aujourd'hui, parmi les lettrés, les timides affectent de lui préférer Lamartine et les hardis Baudelaire. Il fut pourtant un bien grand et bien divertissant versificateur, et ne fut-il que cela. Des gens déclarent qu'il manquait de pensée. Oh, je le veux croire sur leurs paroles, mais écoutez une anecdote. Il y a peu de mois, M. Renan et M. le maître dînaient côte à côte. La conversation tomba sur Hugo. « C'était, dit M. Renan, un esprit bien philosophique. » M. le maître a ce léger travers. C'en est un, je pense, de croire que M. Renan se moque toujours, ou presque. Il s'inquiéta. « Mais en quoi, philosophique, et où ?» Mais dans bien des pages, il avait tout à fait le sens de l'inconscient. C'était un métaphysicien, pas un simple lettré. Et quelle est sa philosophie, la vôtre? Oh, il en diffère moins qu'on nous croirait. Au fond, c'est le panthéisme pour soi et le déisme pour les autres. Croyez-vous que M. Renan s'amusa en parlant ainsi? Je crois, moi, qu'il était fort sincère. La valeur philosophique de Hugo, M. Dupuis l'a très bien vu, n'est guère contestée des philosophes. M. Renouvier n'a pas dédaigné d'écrire des articles sur la métaphysique des contemplations. Il se pourrait que ce ne fût point tant une naïveté de considérer Hugo comme notre plus grand penseur. Il faudrait seulement s'entendre et surtout l'entendre dégager le sens intime de son œuvre si vaste et si touffue. Mais le vent n'y est point. L'ellipse échappe au vieux maître. Pour la foule, elle l'admire par habitude et ne le lit pas. Sa gloire va évidemment subir une éclipse passagère. Et c'est parce que je m'en afflige que j'ai voulu vous conduire aujourd'hui devant le cercueil de celui qui, malgré tout, sera tenu pour le plus grand peut-être et sûrement pour le plus amusant des poètes.